Chapitre 60. Libby est suspendue aux lèvres de Clemency.
« Où est-ce que tu es allé ?»«
À l'hôpital. J'ai suivi les panneaux. Les gens me regardaient bizarrement, mais en pleine nuit, aux urgences, personne ne fait vraiment attention. Il y avait des ivrognes, des fous, des gens morts d'inquiétude. Je me suis présenté à l'accueil. « Mon frère est en train de mourir. Il a besoin d'aide. » L'infirmière m'a dévisagé. « Quel âge a-t-il ? »
« 18 ans. »«
Où sont vos parents ?» Là, je me suis immédiatement renfermé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. J'essayais de parler, mais les mots ne voulaient pas sortir. Je voyais mon père mort, étendu au sol comme une sorte de messie, et Birdie sur le toit emmailloté telle une momie. Comment aurais-je pu faire entrer qui que ce soit dans la maison ? Qu'aurait-il dit ? Qu'aurait-il fait du bébé, de Henry ? Alors j'ai fait demi-tour, je suis retourné dans la salle d'attente. J'ai passé la nuit à bouger d'une chaise à l'autre. Dès que quelqu'un me regardait avec insistance ou avait l'air de vouloir me parler, je changeais de place.
Clemency écrase sa cigarette.
Le lendemain matin, je me suis lavé dans les toilettes, puis je suis sorti m'acheter des chaussures. J'avais un manteau, je m'étais attaché les cheveux. J'avais fait en sorte de passer aussi inaperçu que possible pour une gamine marchant pieds nus dans la rue début avril. J'avais plein d'argent sur moi. J'ai trouvé un magasin, puis je me suis promené dans la ville. Personne ne me voyait, personne ne me regardait. J'ai marché jusqu'à la gare de Paddington en suivant les panneaux. Ça faisait déjà 6 ans que je vivais à Londres, mais je n'avais aucune représentation géographique de la ville. J'ai tout de même réussi à trouver la gare. J'ai acheté un billet pour aller en Cornouailles. Je n'avais pas le numéro de téléphone de ma mère, ni son adresse. Je ne savais même pas dans quelle ville elle habitait. En revanche, je me souvenais d'informations qu'elle nous avait données après avoir déménagé là-bas, la dernière fois qu'on l'avait vue. Il y avait un restaurant sur la plage où elle nous emmènerait quand on viendrait lui rendre visite. Il vendait de la glace bleue et des granitas. Elle nous avait raconté qu'il y avait beaucoup de surfeurs, qu'elle les voyait de la fenêtre de son appartement, qu'une artiste excentrique vivait dans la maison d'à côté et que son jardin était rempli de sculptures phalliques en mosaïque colorée. Il y avait aussi un restaurant de fish and chips au coin de sa rue. Elle avait raté le train rapide et le sien s'était arrêté 17 fois avant d'arriver à Londres. Voilà comment je l'ai retrouvé. Penrith, sa rue, son appartement.
Ses yeux s'emplissent de larmes à ce souvenir. Ses doigts cherchent le paquet de cigarettes posé devant elle. Elle en sort une, l'allume et inhale profondément.
Elle est venue ouvrir. Elle m'a vu.
Sa voix se brise. Elle inspire fort.
Elle m'a vu devant sa porte et elle m'a tiré à l'intérieur contre elle. Elle m'a prise dans ses bras pendant ce qui m'a paru une éternité. Elle sentait encore l'alcool de la veille et je savais qu'elle n'était pas parfaite. Je savais pourquoi elle n'était pas venue nous chercher, mais peu importe, c'était fini. J'étais saine et sauve. Elle m'a fait entrer et asseoir sur le canapé. Son appartement était sans dessus-dessous, avec des affaires partout. Je n'étais pas du tout habitué à ça. Nous vivions sans rien dans une maison vide. Elle a fait de la place sur le canapé et m'a aussitôt demandé où était mon frère. Là, je ne savais pas quoi répondre. Je m'étais enfui en laissant mon frère prisonnier dans sa chambre. Et si je racontais pourquoi il était enfermé, il faudrait que j'explique tout le reste. Elle était détruite, comme moi. Et même si j'aurais dû lui avouer la vérité, ça m'était impossible. Je lui ai dit que les adultes s'étaient suicidés tous ensemble, que Henry, Lucie et Finn étaient encore à la maison avec toi, que la police était en route, que tout allait bien. Ça paraît stupide, bien sûr. Mais rappelle-toi ce que j'avais vécu, ce qu'on avait subi. Je ne savais plus à qui me fier. Pendant toutes ces années, nous n'avions été que des enfants livrés à nous-mêmes. Lucie et moi étions inséparables comme des sœurs. Du moins jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte.
Lucie était enceinte ?
Oui, je pensais que tu savais.
Le cœur de Libby se met à battre rapidement.
Que je savais quoi ? Que Lucie...
Libby devine ce qu'elle va dire. Elle pose sa main sur sa gorge.
Quoi ?
Articule-t-elle.
Lucie est ta mère.
Libby contemple la photo du cancer de la bouche sur le paquet de cigarettes de Clemency
et absorbe chacun des détails répugnants de cette image pour refouler la nausée qui monte en elle. Sa mère n'est pas une belle femme avec la même chevelure que Priscilla Presley. Sa mère est une adolescente.
« Et mon père ?»
interroge-t-elle un moment plus tard. Clemency la regarde d'un air navré.
« C'était mon père. »
Libby acquiesce. C'est ce qu'elle imaginait.
« Elle avait quel âge ?»
Clemency baisse la tête.
« 14 ans. Mon père en avait plus de 40. »
Libby cligne des yeux lentement.
« Est-ce qu'il l'a ?» Non. Lucy disait que non. Selon elle, c'était... consenti ?
Oui.
Mais elle était si jeune. Même si c'était consenti, ça reste un crime.
C'est vrai.
Mais mon père était un homme très charismatique. Il pouvait à la fois te donner l'impression d'être quelqu'un d'exceptionnel, ou au contraire te convaincre que tu étais en dessous de tout. Il valait mieux faire partie des gens exceptionnels. J'imagine aisément comment il s'y est pris avec elle.
Oui.
Mais c'est inacceptable. Ça me dégoûtait. Je le détestais d'avoir fait ça. Je la détestais aussi de ne m'avoir rien dit.
Elle se taise un moment. Libby prend le temps de laisser décanter en elle les révélations de ces dernières minutes.
Sa mère était si jeune. Maintenant, elle doit avoir une quarantaine d'années, et personne ne sait où elle se trouve. Son père était un vieux pervers, un pédophile, un monstre.
Son téléphone sonne. C'est un message WhatsApp provenant d'un numéro inconnu.
« Pardon, je vais regarder ce que c'est »,
excuse-t-elle en ouvrant le message. Il s'agit d'une photo sur laquelle il est écrit « On t'attend ici, viens ». Le cliché a été pris dans la maison de Chainwalk. Assise sur le sol, une femme fait coucou à la caméra. Fine, les cheveux sombres, très bronzés. Elle porte un gilet sans manches et a les bras tatoués. À sa gauche, un adolescent très beau, tout aussi bronzé qu'elle, avec les cheveux bruns. À sa droite, une adorable fillette aux cheveux d'or bouclés, à la peau olive et aux yeux verts lumineux. Un petit chien blanc, noir et marron est couché à leurs pieds. Au premier plan, tenant le téléphone à bout de bras, souriant de toutes ses dents très blanches à la caméra, se tient l'homme qui se fait appeler Finn. Libby tourne son portable vers Clemency.
Est-ce que c'est... Oh mon Dieu !
S'exclame-t-elle en pointant du doigt à la femme.
C'est elle ! C'est Lucie !
Libby zoome sur le visage de l'inconnu. Elle ressemble à Martina, à la femme qui n'est finalement pas sa mère. Elle a la peau hâlée, ses cheveux sont noirs et brillants, mais contrairement à ceux de Martina, ils s'éclaircissent aux pointes. Son front est légèrement ridé, ses yeux sont marron foncé, comme ceux du garçon à ses côtés. Son visage est buriné. Elle a l'air fatiguée. Mais elle est d'une beauté renversante. Il se gare à proximité de la maison de Chainwalk 5 heures plus tard. Arrivé à la porte, Libby touche les clés dans la poche de son sac à main. Elle pourrait ouvrir, c'est sa maison. Elle a un mouvement de recul quand elle prend conscience de son erreur. Ce n'est pas sa maison, pas du tout. Cette maison est celle du bébé de Martina et Henry. Un bébé qui n'est jamais né. Elle laisse les clés dans son sac et appelle le numéro qui lui a envoyé la photo.
« Allô ?»
répond une voix douce et mélodique.
« Lucie ? Oui ? C'est Serenity ?»